Salut tout le monde, c'est Mélanie de WeKid. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois à l'émission non pas un, mais deux invités qui vont nous éclairer sur un sujet vraiment intéressant, mais aussi un peu inquiétant. Les parents, on connaît tous la méningite ou les maladies à méningocoque, surtout de par son nom, hein, parce que ça figure sur leur fameux calendrier de vaccins de 18 mois. Puis, on se pose pas trop de questions parce qu'on pense que nos enfants sont protégés contre ce type de maladie-là. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que nos enfants reçoivent effectivement une dose pour quelques souches de la méningite, des souches qui sont maintenant presque plus présentes au Canada. Mais une des souches de la méningite, celle qui a des conséquences graves et même mortelles, surtout chez les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire, ben c'est la méningite B. Puis même si elle est plutôt rare, c'est quand même le type de méningite le plus courant au Canada. Puis ce qui est le plus inquiétant encore, c'est que nos enfants n'y sont pour la plupart pas du tout protégés. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de poser des questions puis de parler à des gens qui sont super bien outillés puis qui ont généreusement accepté de nous parler de leur histoire pour nous expliquer en quoi cette maladie qu'on connaît finalement juste de nom, en quoi elle est grave, comment on peut reconnaître les symptômes, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme conséquences sur la santé de nos enfants et surtout comment on peut la prévenir et comment on peut protéger nos enfants des maladies à méningocoque. Salut, je suis Mélanie, la fondatrice de WeKid et de ce podcast. Je suis éducatrice spécialisée et ma spécialité, c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission, c'est de vous accompagner dans les défis que vous vivez au quotidien, de vous rassurer, de vous redonner confiance. Je vais vous apporter des explications puis de l'information pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, à mieux comprendre les messages qui se cachent derrière les comportements qui sont un peu plus problématiques. Mon but, c'est de vous fournir des pistes de réflexion puis des stratégies ou des outils concrets pour accompagner vos enfants en fonction de leur rythme développemental. Je veux surtout vous aider à faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Si ce podcast continue à grandir puis à aider toujours un peu plus de parents puis leurs enfants, bien c'est beaucoup grâce à vous, alors je tiens à vous dire merci. Gênez-vous pas pour partager mon podcast ou les sujets qui vous parlent, de me faire un petit feedback en mettant une évaluation sur iTunes ou en m'envoyant un petit coucou. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Bonne écoute! L'émission d'aujourd'hui, Marie-Ève Gagnon, qui est maman 5 fois, va nous raconter son histoire à elle et à son garçon Benjamin, qui a contracté la méningite B quand il avait 4 mois et qui est, vous allez voir, des plus inspirantes. Je vais aussi poser toutes les questions que j'ai en tête au docteur Yarimko, qui lui a plusieurs années d'expérience en médecine pédiatrique d'urgence et en infectiologie. Je t'invite vraiment à prendre ces quelques minutes de ton temps pour écouter cette émission-là parce que ça pourrait littéralement sauver la vie de tes enfants. Donc bonjour docteur Yarimko, merci beaucoup de nous accorder de votre temps, j'imagine qu'il est bien précieux, c'est super apprécié. Alors vous êtes médecin à l'hôpital pour enfants de Montréal, c'est ça?
Je suis pédiatre à Montréal et j'ai travaillé à l'urgence aux Children et aussi je fais de l'enseignement à McGill en pédiatrie.
Bon. Ben, je pense qu'on peut dire que les maladies puis les infections chez les enfants, c'est pas mal votre spécialité.
On en voit beaucoup, oui. En pédiatrie, les infections, c'est probablement un des problèmes les plus courants. Des infections simples comme des petits rhumes, des diarrhées, des infections graves comme la méningite, mais c'est un des problèmes les plus fréquents en tant que pédiatre qu'on doit traiter, c'est sûr et certain.
J'imagine. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce que c'est les maladies à méningocoque dont la méningite B fait partie?
Alors, des infections invasives aux méningocoque, c'est une infection bactérienne qui est grave, qui va causer des méningites chez les personnes ou des infections dans le sang. Alors, une méningite, là, c'est une infection de l'enveloppe qui est autour du cerveau et de la moelle épinière. Mm-hmm. Il y a 2 types de méningites principaux. Il y a les infections virales. Mm-hmm. Et en général, ces infections-là sont plus fréquentes, sont moins graves, ils laissent moins de séquelles à long terme.
Okay.
Et il y a les infections bactériennes. Et c'est ça qui nous inquiète le plus.
Ouais.
Et ça, c'est les infections méningocoques, là, c'est une des causes les plus fréquentes pour les infections méningites bactériennes chez nos jeunes. Et puis, il y a 5 types de méningocoques. Il y a le type A, B, C, Y et W. Mais c'est vraiment présentement le type B qui cause la majorité des infections méningite ou dans le sang associé avec le méningocoque au Québec.
Puis nous, dans le fond, ben, nous, les enfants, maintenant, sur le calendrier de vaccination, c'est pas pour la méningite B qu'ils sont vaccinés, c'est pour un autre type de méningite?
Absolument. Alors, présentement, dans le calendrier vaccinal de nos enfants, ils reçoivent trois types de vaccins contre des bactéries qui peuvent causer des méningites. Et ces trois types de bactéries, on les voit rarement maintenant au Québec. Okay. À cause du succès des vaccinations.
Oui. Exact. Puis, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui font qu'il y a certaines personnes, certains enfants qui sont plus à risque d'attraper la maladie que d'autres?
Il y a certaines maladies immunitaires qui vont rendre des personnes à risque pour ce type de maladie-là. Mais ces maladies immunitaires sont très, très rares dans notre population.
OK.
Et chez les personnes qui ont ces maladies immunitaires, on prend certaines précautions avec eux, qui fait que c'est très rare qu'à notre urgence ou nos soins intensifs aux children, on va voir des patients avec des problèmes immunitaires se présenter avec ça. Alors, la chose qui est la plus dérangeante pour les infections invasives au méningocoque, c'est que les personnes qui se présentent, c'est premièrement des personnes en bonne santé et le facteur le plus important, c'est l'âge. Et l'âge le plus à risque, c'est les moins d'un an.
Okay.
Suivi des nourrissons d'âge préscolaire,
okay.
Suivi de les adolescents et les jeunes adultes. Mais les plus à risque, c'est vraiment nos nourrissons en bas d'un âge, en bonne santé.
C'est ça. Puis étant donné que c'est une bactérie, ça se promène. Puis dans le fond, n'importe qui peut l'attraper. Là, on n'a pas besoin de. C'est juste que les personnes qui ont un moins bon système immunitaire sont peut-être un peu plus sujettes à l'attraper. Mais essentiellement, tous les enfants, tous les nourrissons, tous les adolescents même peuvent l'attraper.
Oui, on peut être porteur du méningocoque temporairement sans avoir une infection et on peut le donner à quelqu'un par des comportements quotidiens comme un bec, alors c'est dans la salive, alors partager un verre, tousser, alors on peut le partager à quelqu'un d'autre qui va l'attraper puis par malchance, ils vont devenir malades.
Fait que là, on commence à être un peu familier avec la façon dont on transmet les virus hein, avec la COVID en ce moment. Fait dans le fond, c'est le même principe. On peut être porteur, puis être asymptomatique, puis le donner à quelqu'un d'autre.
Oui. Ce qui va faire quelqu'un devenir symptomatique, c'est totalement une mauvaise chance. Et le facteur le plus important demeure l'âge. Et ouais. L'âge, c'est surtout les nourrissons, les jeunes d'âge préscolaire.
Donc, moi, comme parent, je pourrais être porteur et le transmettre à mon nourrisson.
Définitivement, oui. Sans jamais savoir que vous êtes porteuse. Et en général, dans la population, 10 % de nous sont porteurs à un moment ou un autre. Alors, cette semaine, c'est toi. Dans deux mois, c'est avec quelqu'un d'autre. Et on peut redevenir porteur dans 2 ans. Alors, okay. L'état de porteur, c'est juste quelque chose qui existe.
Puis, est-ce que vous pourriez nous expliquer... quels sont les signes? Comment on peut faire pour reconnaître que notre enfant a peut-être des symptômes de la méningite B ou d'une méningocoque?
Une des choses qui est très inquiétante en tant que médecin pour le méningocoque, c'est que initialement les symptômes sont très légers, puis vont ressembler à des symptômes qu'on retrouve dans un simple rhume ou, ou l'influenza. Alors, c'est très, très bénin initialement. Okay. Mais en dedans de 24-48 heures, les symptômes deviennent beaucoup plus graves et plus évidents. Et ça, c'est des maux de tête qui sont sévères. Okay. Une fièvre qui est très élevée, une irritabilité, une léthargie. D'autres symptômes, c'est des vomissements, une respiration rapide, une douleur à la nuque ou une raideur de la nuque peuvent être associées avec ce type d'infection-là. Et les infections invasives au méningocoque, souvent vont avoir une éruption cutanée qui ressemblent beaucoup à des ecchymoses qui vont apparaître un peu partout sur le corps pour aucune raison.
Okay.
Et qu'est-ce qui est encore plus bête, c'est que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les nourrissons en bas de 1 an sont les plus sujets à cette infection-là.
Ouais.
Alors, ils ne vont pas nous dire qu'ils ont mal à la tête.
Exact.
Alors, les symptômes sont souvent plus subtils. Alors, ils arrêtent de manger, sont plus irritables, sont plus léthargiques. Et éventuellement, ils vont avoir des problèmes respiratoires, ils vont devenir très amorphes, mais c'est très subtil initialement chez les jeunes enfants.
Donc, aussitôt qu'on a un doute, on se présente à l'hôpital pour faire évaluer notre enfant.
Oui, comme faut pas être fou non plus, parce que la majorité des infections avec fièvre chez nos enfants,
ouais.
C'est des petits rhumes, des cigarettes.
Ben oui.
Mais aussitôt qu'ils sont vraiment...
Qu'il y a quelque chose d'atypique, oui.
atypique, là, il faut se présenter. Vous avez bien raison. Oui.
Puis, est-ce que c'est ça, dans le fond, vous l'avez un peu dit tantôt, ma question était la suivante, est-ce que c'est pas une maladie qui est rare? Dans le fond, c'est une maladie qui devrait quand même préoccuper les parents parce que ça se promène beaucoup.
C'est, pour moi, c'est pas une maladie rare. C'est peu fréquent, mais c'est pas rare. Et en tant que médecin de première ligne à l'urgence, c'est des infections qu'on va voir, mais pas chaque jour, pas chaque semaine, mm-hmm. mais on va les voir assez régulièrement. Et pour cette raison-là, il faut être très attentif aux symptômes qui se présentent chez nos patients pour ne pas manquer un cas. Parce que quand on a la maladie, c'est très invasif. Puis le taux de mortalité, le taux de séquelles à long terme est très élevé si on ne le traite pas tôt.
Donc, il y a des traitements quand même qui existent si on arrive à mettre le doigt dessus assez rapidement.
Alors, il y a des traitements d'antibiotiques. Alors, le traitement principal, c'est les antibiotiques. Mais souvent, la maladie est tellement envahissante que les jeunes vont se retrouver aux soins intensifs, intubés avec un respirateur. Il va y avoir des baisses de leur tension artérielle. Ils vont être très, très malades. Et dans les premiers 24 à 48 heures, un enfant sur 10 va en mourir. Et même avec tous les meilleurs traitements, les meilleurs soins aux soins intensifs, environ 2 sur 10 vont avoir des séquelles à long terme, soit des problèmes neurologiques comme des convulsions, des problèmes d'apprentissage, des surdités. Et même avec ce type d'infection, des fois, il faut amputer un ou plusieurs membres mm-hmm. chez le jeune à cause de cette infection-là.
Mais donc, est-ce qu'il y a des gestes concrets qu'on peut faire, nous, comme parents, pour prévenir ou pour protéger nos enfants de ce genre de maladie-là?
On a un programme d'immunisation au Québec qui est très bon. Alors, présentement, le gros problème en tant que méningite chez nos jeunes, c'est le méningocoque. Et le méningocoque type B cause 97 % des infections invasives au méningocoque au Québec. Mais ce vaccin-là ne fait pas encore partie du programme universel. En 2001, le méningocoque type C nous donnait plusieurs problèmes. Et depuis 2001, il y a un programme universel contre le méningocoque type C. Et c'est un vaccin qu'on donne à 18 mois et qu'on répète en troisième année du secondaire. Mm-hmm. Et depuis 2001, on a diminué de 97 % les cas de méningocoque associés au méningocoque type C.
Okay.
Alors, présentement, c'est le B qui est présent et on peut faire bien nourrir nos enfants, bien habiller nos enfants, bonne hygiène, mais c'est vraiment une mauvaise chance et la meilleure protection, c'est la vaccination.
Okay.
Et malheureusement, ça ne fait pas partie de notre programme universel aujourd'hui au Québec, mais définitivement, c'est une discussion que je pense que les médecins de première ligne devraient avoir avec les parents et que les parents devraient demander à leur médecin comment est-ce que je peux bien protéger mon enfant contre le méningocoque, surtout le B?
Absolument. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Dans le fond, les risques sont tellement élevés qu'il y a de la mortalité ou des séquelles que là, c'est comme un peu trop peu, trop tard.
C'est un désastre quand on doit travailler avec un patient. Et quand je pense à toutes les expériences que j'ai vécues en tant que médecin, en tant que patient qui se sont présentés, mes pires souvenirs, c'est des enfants qui avaient une infection invasive au méningocoque type B.
Wow. Ben, je vous remercie beaucoup, Dr Yaremko, de nous avoir donné de votre temps, de nous avoir donné toutes ces informations précieuses qui sont là. Mon auditoire est composé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents au Québec. Fait que j'ose espérer que ça va avoir sensibilisé puis ça va avoir touché plusieurs parents, plusieurs familles grâce à toute l'information que vous nous avez donnée aujourd'hui.
Puis merci de m'avoir donné cette occasion de partager mes expériences avec vos parents. Merci beaucoup.
Wow, ça c'est de l'information vraiment précieuse qu'on est quand même privilégié d'avoir reçue aujourd'hui. Mais partez pas trop vite parce que la suite s'en vient avec l'histoire vraiment inspirante et touchante de Marie-Ève Gagnon, qui est la maman de Benjamin, qui lui a contracté la méningite B alors qu'il était tout petit, il avait seulement 4 mois. Donc sa maman a pris du temps aujourd'hui pour discuter avec moi pour nous raconter un peu ce qu'elle a vécu. Salut Marie-Ève! Donc, tu es maman de plusieurs enfants, dont un garçon qui s'appelle Benjamin, et vous avez vécu quelque chose que tous les parents ne souhaitent pas, évidemment, mais Benjamin a contracté la méningite B, si je ne me trompe pas.
C'est bien ça, Benjamin. Mais jamais il y a eu ça à 4 mois et demi, là.
À 4 mois et demi, OK, c'était vraiment, il était vraiment un petit nourrisson. Puis est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, au fait, ou est-ce que tu peux nous introduire l'histoire de Benjamin?
Bien, je vais vous introduire dans notre monde. Dans le fond, Benjamin, moi, c'était mon premier enfant. J'avais 19 ans et à l'aube de ces 4 mois, Benjamin a eu contracté une méningite à méningocoque et comment je m'en suis aperçue, dans le fond, c'est que Benjamin, cette journée-là, il allait vraiment pas bien. Il était vraiment flasque, il était mou, il buvait pas beaucoup. Donc, tu sais, j'ai été consultée parce que je trouvais que, tu sais, il était vraiment maussade, puis il était pas, tu sais, c'était un enfant qui était peu pleu, tu sais, il pleurnichait jamais. Toujours le gros sourire aux lèvres, tu sais, était déjà d'une extrême bonne humeur, et puis il était tout petit, puis il jasouillait tout le temps. Et puis, dans le fond, on a consulté un médecin, mon pédiatre, qui était presque devant ma maison. Dans le fond, je traversais la rue, j'étais rendue chez mon médecin. Et le docteur, à l'époque, avait diagnostiqué un virus d'été avec une gastro-entérite, puis c'était pas ça du tout. Fait que mon cauchemar a commencé, je vous dirais, aux alentours d'environ 11 h le soir. Moi, j'avais consulté le médecin à 17 h environ. Et lorsque c'est arrivé, dans le fond, Benjamin, je l'avais couché avec moi dans un tout petit Moïse. Et puis, je pense qu'il pesait à peine 16 livres à l'époque, là. C'était un tout petit bébé. Et puis, dans le fond, je l'ai couché avec moi. Puis, à 3 h du matin, il m'a réveillé avec une respiration saccadée. Et il était black spoté, là, il était bleuté partout. Il y avait des pétéchis à grandeur du corps. On avait la misère à voir la. Et puis, Benjamin, il y avait une forte fièvre, ce qui a causé ça aussi. Donc, là, ben, avec la respiration qu'il avait et tout le tralala, j'ai tout de suite appelé le 911. Et puis, j'ai jamais vu une ambulance rentrer dans un driveway comme ça, puis m'enlever mon enfant presque dans la porte d'entrée. Et partir tout de suite à l'hôpital Sainte-Justine en me disant que le temps était compté, mais qu'eux-mêmes ne pouvaient pas me
Savais
dire
pas.
exactement ce qu'il en était. Et 4 h plus tard, après une ponction lombaire, on m'annonçait que Benjamin souffrait d'une méningite B et qu'on ne savait pas s'il était pour passer les 24 prochaines heures.
Wow, j'ai des frissons partout sur mon corps. OK. Wow, ça devait être toute une nuit, toute une aventure. Je peux même pas m'imaginer ton sentiment que tu devais avoir.
Bon, mes parents, ma mère était à Montréal. Elle n'avait même pas de voiture pour se rendre et me rejoindre. Mon père était en voyage de pêche avec des collègues à 12 h de ma maison. Et Dieu sait que je réclamais mes parents,
Ben, je
mon.
comprends.
Et là, ben, du moment où toute la famille s'est rassemblée, ben, c'est là que les mauvaises nouvelles ont commencé à tomber pour Benjamin. Fait que, tu sais, on avait de grandes décisions et de grosses décisions à prendre. Moi qui étais à l'aube de mes 19 ans, là. Fait que je te dirais que c'est tout un coup. Tu sais, on dit rentrer le pied dans le monde adulte. J'y ai rentré les deux pieds et
Définitivement.
la tête dedans. J'ai été très bien cerclée, très bien entourée, mais c'est un peu plus tard que ça s'est gâté, là, quand tout a commencé à débouler, là, les 7 jours plus tard, ma vie a changé complètement, là.
Dans le fond, 7 jours plus tard, ça s'est détérioré. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Donc, je te dirais que dans les méningites les plus foudroyantes, moi, j'ai comme gagné le gros lot, là. Et puis, tu sais, ça n'a pas pris quelques heures que les ongles de Benjamin, d'orteils et de doigts étaient déjà nécrosés. À cette heure, quand je regarde un raisin sec, je suis pas capable parce que ça me rappelle toutes sortes de trucs. Tu sais, j'ai des flashbacks de certaines choses. Fait que, tu sais, je te laisse imaginer un peu ce que ça apporte comme feeling en tant que parent, puis quand c'est ton premier enfant. Mais moi, comme j'avais dit au médecin, j'étais très lucide. Tu sais, j'avais quand même un background médical aussi par rapport à mon métier. Et puis, je te dirais que j'étais prête à tout. La seule chose que je voulais, c'est qu'on garde Benjamin en vie.
T'es prête à te battre.
C'était mon premier enfant, puis je l'ai tellement voulu, cet enfant-là.
Ah
Fait
non, je
que
comprends.
tout ça pour dire que la première amputation s'est faite le 7 juin, soit 7 jours après le diagnostic tombé. Et par la suite, ben là, ils ont passé plusieurs scans. On s'est aperçu que tout son flot sanguin s'arrêtait mettons, la première phalange de ses doigts ou, par exemple, comme la hauteur, si on parle des pieds, mettons la hauteur d'une botte de travail, fait qu'on savait approximativement qu'à partir de ces extrémités-là, autant inférieures que supérieures, il n'y avait plus de coagulation sanguine, le mal était déjà fait, fait qu'il fallait qu'on ampute. Fait que ça a été, je te dirais, ma plus grande épreuve de lever une petite couverte. Je deviens motivée quand je parle de ça à chaque fois parce que c'est toute une claque pour un parent. Et je te dirais qu'à la limite, je regrette rien de mon choix parce qu'aujourd'hui, j'ai un petit garçon qui est full en santé malgré tout. Mm-hmm. Et que ça m'apporte beaucoup de choses, mais le simple fait que de lever une petite couverte et s'apercevoir que il n'y a plus rien en bas, ben oui. Tu sais, ta vie, elle change, là. Fait que, tu sais, tu sais pas, tu connais rien, tu connais pas les amputés de guerre, tu connais mm-hmm. pas, tu sais, c'est quoi une physio, un ergo, tout ça arrive dans ta vie. Ouais. Un hématologue, parce que ton enfant a quand même eu des plasmaférèses, qui sont des transfusions sanguines majeures où il vide ce qui est infecté et ce qui rend du nouveau sang, dans le fond. Donc, c'est ça. T'sais, c'était tout l'engrenage qui se sont en suivi, puis tout ça, puis tous les 23 spécialistes qui étaient après Benjamin. Écoute, je passais la première année après sa méningite, c'est Sainte-Justine. J'ai vécu au manoir
Ronald McDonald. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on souhaite pas ça à personne, puis on pense pas nécessairement que ça va nous arriver. Fait que, tu sais, il y a des choses, je pense, comme parents aussi, qu'on peut faire pour s'outiller, puis pour s'éduquer, puis, tu sais, concrètement, est-ce que il y a des choses qu'on peut faire pour protéger nos enfants, pour prévenir, tu sais, y a-t-il des outils qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait?
Maintenant, la recherche a avancé. Moi, à l'époque, il n'y en avait pas de vaccin pour la méningite B, mm-hmm. Et s'il y en aurait eu, tu sais, j'aurais bénéficié de ça et ben oui. Probablement que ma vie, comme j'ai dit tantôt, aurait été complètement différente. Mm-hmm. Là. Et puis, c'est sûr que, garde, parler avec son médecin de famille, c'est la meilleure chose à faire. Mm-hmm. Les gens sont tellement pas informés sur mais la méningite, la méningocoque. Tu sais, il y en a 5 types. Mais Benjamin, c'est la plus dramatique, genre, ouais. La plus fulminante, ça le dit, là. Dans le fond, mais c'est tellement important. Puis aujourd'hui, on a la pharmacovigilance. Puis mm-hmm. faut que les parents sachent à quel point on est chanceux ici au Québec puis au Canada d'avoir ce type de ressources-là. Puis moi, ben mon slogan, je dis souvent, pensez vite, protégez vos méninges.
Ouais, fait non, que,
c'est vraiment ça parce que, tu sais, si moi, à l'époque, j'aurais pu faire bénéficier Benjamin de ça, probablement que, tu sais, rien de ce qu'on vivrait, Benjamin et moi, et les enfants et mon conjoint aujourd'hui, notre vie, elle serait tellement pas pareille, tu sais, parce que on n'a pas une vie comme les autres, on n'a pas, tu sais, là, surtout avec la pandémie, on est super isolés. mais tu sais, je veux dire, c'est tellement important de sensibiliser, puis les parents, tu sais, aujourd'hui, on tombe dans un engrenage de routine où les parents sont tellement mal informés que moi, ça me fait tellement plaisir quand on me demande de faire des entrevues comme ça parce que, tu sais, c'est l'histoire de ma vie. Puis pour moi, c'est comme capital d'informer les parents.
Oui, mais quand ta voix peut avoir un impact sur peut-être plein d'autres familles, c'est important, je pense, de le faire. Puis, mais là, mettons qu'on veut aller un peu plus dans le positif. Puis là, tu m'as dit, Benjamin, il est en santé. Fait que là, par la suite, dans le fond, là, ça va bien.
Oui, ben dans le fond, Benjamin, il a suivi des protocoles. C'est parce que il y a des types de méningite comme la B, par exemple, qui a quand même certains protocoles qu'on pouvait faire. C'est la réadaptation après là, qui a été le plus long dans l'histoire puis qui a été le plus... je te dirais, le plus demandant pour Benjamin, pas pour moi, mais pour Benjamin surtout.
Je comprends.
Fait que, tu sais, on lui a fait faire un paquet de traitements pour l'aider à s'activer. Tu veux même pas savoir combien d'hypothèques de maison mon conjoint puis moi on met sur cet enfant-là, puis aujourd'hui, il a une qualité de vie super belle.
Mais tant mieux.
Tu sais, mais c'est beaucoup de milliers de dollars d'investis, mais pour un petit garçon qui... Malgré qu'il ne parle pas, parce qu'il y a une déficience intellectuelle majeure, faut le mentionner aussi. T'sais, il est quadramputé, dans le fond, il est amputé en bas des genoux. Okay. La main droite au complet jusqu'au poignet. Puis il a trois doigts de la main gauche, pouce index majeur, mais il n'a pas la première phalange, donc il n'a pas ses ongles.
Okay.
Mais il pogne tout, il est capable de s'alimenter tout seul. Ses reins ont arrêté de fonctionner, puis après hyperbare, tout s'est remis, la machine s'est tout enclenché. C'est pas une vie quotidienne régulière d'un parent qui a des enfants super en santé, là.
C'est clair. Non, mais je suis contente de savoir qu'il y a quand même beaucoup de positifs malgré tout, là.
Ben, faut s'accrocher, hein, parce que, tu sais, moi, récemment, tu vois, il nous a dit le mot « amour ». Parce que, tu sais, il dit quelques mots. Il dit « maman » 70 fois par jour.
Ouais.
Mais le mot récent, là, c'est le mot « amour à moi ». Fait que, tu sais, on s'accroche à chaque petite chose que Benjamin... nous dit, tu sais, fait que, tu sais, avec de l'amour, on peut faire bien des affaires.
Ah, c'est clair. C'est fort, l'amour. Écoute, en terminant, si tu avais un conseil à donner aux parents, ce serait lequel?
Ben, qu'est-ce que je veux dire, c'est que je veux encourager les parents à parler avec leur médecin de famille ou leur pédiatre, parce que c'est trop important d'être informé sur la méningite à méningocoque, que ce soit celle à Benjamin ou les autres. Mais n'hésitez surtout pas, les parents, c'est tellement important de s'informer. Tu sais, aujourd'hui, on a contré des maladies, des vieilles maladies à cause de la vaccination.
Yeah.
Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut surtout pas oublier, puis surtout de protéger nos enfants, parce que nos enfants, c'est notre avenir.
Ben exactement, exactement. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Ève, de t'être ouverte à nous, de nous avoir partagé ton histoire. C'est vraiment courageux quand même de le faire, puis c'est tout à ton honneur d'en parler, d'en partager, puis de sensibiliser, d'éduquer les parents.
Oui, puis si je peux juste rajouter une chose, Mélanie, Benjamin, il y a une page Facebook qui s'appelle Benjamin Gagnon. Fait que si jamais les gens veulent aller visiter sa page, vous allez le voir en vrai. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On est assez vite sur le piton.
Wow, c'est vraiment une grande force de la nature, Marie-Ève. Je sais pas pour toi, mais moi, j'avais vraiment des frissons tout au long de notre conversation. Pour moi, ça a vraiment eu un effet de wake-up call. Puis les mots du docteur Yaremko qui ont le plus résonné en moi sont « T'as beau offrir les meilleurs repas, les plus beaux vêtements, les plus beaux jouets éducatifs, ça change rien au fait que ton enfant va pas être immunisé contre cette maladie-là. » Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a des options de vaccins qui s'offrent à nous pour prévenir la maladie puis pour protéger nos enfants. Il faut juste le demander. Donc, je vous invite à faire vos propres recherches sur le site bmanquant.ca pour avoir plus de détails. Mon but, c'est d'informer, c'est pas de mettre la pression à qui que ce soit. Mais moi, personnellement, pour mon cœur de maman, après ces deux conversations-là, c'est certain que je vais appeler le pédiatre de mes enfants pour avoir vraiment plus de détails sur tout ça. Tourlou.